Alors, on est dans le survol de l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Mais éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, pour ce prophète, cet homme qui s'est dévoué, Seigneur, pour être ton messager. Père, j'ai été touché, j'ai été édifié de voir cette relation, Seigneur, qu'il y a entre toi et ton prophète, cette relation que tu désires entre toi et ton peuple, Seigneur. J'aime, Seigneur, être dans les livres prophétiques pour entendre ton cœur, pour voir combien tu désires être près des hommes et tu désires manifester ta grâce envers eux, Seigneur. Je demande, Père, de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, le livre d'Amos. Vous avez les notes qui sont à l'arrière. C'est important, si vous aviez les notes d'il y a 3 semaines, parce qu'il y avait comme 3 petits livres prophétiques dans les mêmes notes, les notes pour la portion d'Amos ne seront pas adéquates, d'accord? Vous devriez prendre une nouvelle copie ce matin ou ce que vous avez reçu par courriel vendredi, parce que j'ai augmenté passablement la section sur le livre d'Amos. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous dire sur le livre d'Amos qui vous a déjà touché ou lorsqu'on pense à ce livre-là qui vous interpelle? Amos 4:4? Comment? Allez à Bethel et péché. Ah, c'est bon, OK. C'est le verset de Bethel? OK. Allez à Bethel et péché, Amos 4:4. J'aurais pris quelque chose d'autre pour mon école biblique. OK. Alors, si on parle du thème du livre d'Amos, comme tous les livres prophétiques, ou à peu près, il s'agit d'un appel à la repentance, d'accord? Donc, il y a une constante qui est là dans tous les livres prophétiques, et à la longue, ça peut nous rendre un petit peu rébarbatifs à lire les livres prophétiques, parce que dans chacun d'entre eux, il y a un appel à la repentance, il y a une annonce de jugement, tout ça, c'est présent dans chacun d'entre eux. Mais chaque livre prophétique a des perles, et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, vraiment, l'intérêt des livres prophétiques, c'est de les considérer, premièrement, pour ce qu'ils nous révèlent du plan de Dieu. Plusieurs d'entre eux nous révèlent de nouveaux éléments sur le plan de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'ils nous parlent du cœur de Dieu. Je m'excuse. Donc, deuxièmement, parce qu'ils nous parlent du cœur de Dieu. À travers ces livres-là, on voit l'attitude de Dieu, on voit son cœur, on voit son irritation, on voit sa colère, mais on voit aussi son amour passionnel, son désir d'entrer en relation avec son peuple, d'entrer en relation avec nous. Alors, si on parle du thème pour le livre d'Amos, bien, c'est ça, ça va être semblable à plusieurs des livres prophétiques. Dieu appelle Israël à la repentance tout en le prévenant du jugement imminent qui l'attend s'il s'endurcit. Lorsqu'on parle de date de rédaction, ben contrairement au livre de Joël la semaine dernière, celui-là, on a quand même des informations qui nous aident à le situer dans le temps. Alors, on situe ça environ à 750 avant Jésus-Christ, puisqu'on a des rois. Comme j'ai mentionné la semaine dernière, dans le cas du livre de Joël, on n'a pas d'informations historiques vraiment qui nous aident à le situer dans le temps. On doit émettre des hypothèses. Dans le cas du livre d'Amos, bien, on peut reconnaître quels sont les rois dans le royaume du sud et le royaume du nord, en même temps que Amos exerce son ministère prophétique. Maintenant, si on parle de l'auteur lui-même, on n'a pas beaucoup d'informations, d'accord? Les informations qu'on a sur Amos sont contenues uniquement dans son livre. Encore une fois, comme Joël la semaine dernière, on n'a pas de référence externe ailleurs dans les Écritures qui nous éclairait sur ce personnage-là. Mais quand même, on en a un peu plus et ça nous aide à connaître un peu plus ce personnage. Premièrement, il ne fait pas partie des dirigeants religieux. Amos est simplement un berger. Un peu plus loin, on apprend aussi qu'il est cultivateur de sycomore. Donc, c'est vraiment un homme du peuple que Dieu est allé chercher dans l'arrière-campagne, d'accord? Dieu est allé le chercher là pour l'amener pour confronter les rois. Il n'est pas prophète, fils de prophète. En fait, il va dire de lui-même qu'il n'est pas prophète, pourtant il prophétise, d'accord? Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne fait pas, il n'est pas sorti d'une école de prophètes, parce qu'à l'époque, il y avait des écoles de prophètes. Il n'est pas sorti des membres du clergé, si on peut dire. C'était vraiment quelqu'un du peuple. Il vient de Tekoa. Tekoa est à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Maintenant, à cause de son métier, s'il avait été seulement berger, on aurait pu conclure qu'il est resté dans sa région, toute sa vie. Mais comme il est cultivateur de sycomores, ben là, ça nous donne une information importante, puisque dans cette région-là, la région de Jérusalem, le sycomore ne poussait pas. D'accord? Alors, pour qu'il ait été cultivateur de sycomores, ça veut dire qu'il a voyagé, il est allé dans le nord, et probablement qu'il a côtoyé d'autres pays qui sont autour. Parce que vraiment, dans cette région-là, il n'y avait aucun sycomore qui était cultivé, il n'y avait rien de ça qui poussait là. Et donc, ça va nous donner des informations parce qu'après, Amos va prononcer des prophéties, des jugements sur des nations environnantes. Et on peut présumer, puisqu'il a voyagé en raison de ce deuxième métier-là, qu'il a pu être témoin lui-même de certaines des atrocités qu'il va mentionner. D'accord? Alors, il les a probablement vus de ses propres yeux. Non seulement Dieu lui donne des prophéties à mentionner, mais il a probablement été témoin en raison de ce deuxième métier-là. J'ai trouvé ça intéressant. Un des commentateurs mentionnait, si vous allez à l'avant-dernier paragraphe de la page 1, il disait, il est intéressant d'observer qu'Amos a choisi de demeurer passablement inconnu, car il nous montre ainsi le véritable esprit du prophète qui présente Dieu plutôt, je m'excuse que de parler de lui-même, j'ai une erreur ici. C'est quand même un intérêt de voir Amos qui est vraiment concentré. Comme je vous dis, lorsqu'on va l'approcher et lui dire « toi le prophète », lui va dire « non, moi, je ne suis pas un prophète, je suis juste un serviteur de Dieu, Dieu est venu me chercher puis j'ai un message à donner ». Mais ce qui l'intéresse, c'est d'être un canal qui va conduire à un rétablissement de la relation entre Dieu et son peuple. Et juste en cela, Amos est un modèle pour nous. D'accord? J'ai pas à me préoccuper d'attirer l'attention sur moi comme chrétien. Je suis là pour annoncer l'Évangile aux gens. J'ai pas à me préoccuper d'attirer l'attention sur moi comme pasteur. D'accord? Alors, il y a des églises qui sont comme construites autour de la personnalité d'un individu. Il y a quelque chose de profondément non évangélique dans cette démarche-là. D'accord? Amos aurait pu s'associer à Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. D'accord? Et donc, en ce sens-là, Amos est un exemple, il est un modèle pour nous. Je vous ai mis une petite image d'un sycomore. Le sycomore, aujourd'hui, le nom sycomore est utilisé pour d'autres types d'arbres, mais à l'époque, c'était vraiment le figuier, d'accord? C'était ça, un sycomore, c'est de cet arbre-là qu'on tirait les figues. Donc là, si je parle de figues, vous êtes capable de vous situer un peu sur l'importance de cette culture-là dans cette région à cette époque. C'est quelque chose qui est constamment mentionné, qui est vraiment présent dans la culture. Aujourd'hui, on utilise le terme, par exemple, il y a des érables sycomores, des choses comme ça. Mais on parle ici vraiment de l'arbre qui produisait des figues. Et donc, il était cultivateur de sycomores. Si on regarde la structure du livre, j'ai trouvé ça intéressant. Ce sont des hypothèses, d'accord? Lorsqu'on aborde les livres de la Bible, ça fait quelques fois que je vous le mentionne. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ça vaut la peine que je le répète. Quand on arrive lorsqu'on lit toutes les Écritures, puis on étudie les livres, livre par livre, il y a des genres littéraires qu'on rencontre, d'accord? On l'a mentionné à plusieurs reprises, par exemple un genre poétique, un genre historique, un genre prophétique, d'accord? Ça, ce sont des genres littéraires. C'est important de les reconnaître lorsque je veux lire, même quand je fais mon culte personnel. C'est important pour vraiment bénéficier du texte, que j'ai conscience dans quel genre littéraire je suis en train de m'engager dans ma lecture, parce que cela va affecter ma compréhension du texte, d'accord? Maintenant, là, ça c'est comme les premières grandes catégories, les genres littéraires. Je vais passer à un deuxième niveau. Parmi les différents genres littéraires, il y avait, comme il y a eu à toute époque, des types d'écrits qui pouvaient être utilisés. Ici, l'exemple qui nous est donné, c'est comment est-ce qu'on structurerait, par exemple, une lettre pour une poursuite. Alors, si vous voulez envoyer une mise en demeure à quelqu'un, vous allez aller aujourd'hui sur Internet, vous allez chercher formule, lettre, mise en demeure, puis vous allez aller voir de quoi ça a l'air, cette affaire-là. Puis toutes les mises en demeure ont des éléments essentiels qui se retrouvent dans chacune d'entre elles. D'accord? Si, par exemple, vous étiez en train de présenter, de préparer une lettre pour postuler pour un emploi, ça va être une lettre de présentation, vous allez pouvoir en chercher, puis il va y avoir une formule, en gros. Là, ça peut changer avec les époques, tout ça, mais il y a des facteurs, il y a des éléments importants à retrouver dans ces lettres-là. D'accord? Pour autant qu'on peut comprendre, Amos ici utilise justement une formule qui était déjà présente. Et j'ai déjà fait allusion à ça un petit peu, par exemple. D'autres livres prophétiques sont structurés comme un traité, comme une alliance qu'on pouvait trouver entre un roi conquérant et un peuple conquis. Et donc, le roi promulguait, annonçait le traité qu'il faisait avec ce peuple conquis, admettons. Certains livres prophétiques sont structurés comme ça. Celui-ci est structuré, pour autant qu'on peut voir, comme une lettre de poursuite pour un bris d'alliance. Il y a une alliance et il y a un bris, tu ne respectes pas les conditions de notre alliance. Voici à quoi pourrait ressembler une poursuite, d'accord? Et c'est intéressant de voir cette structure-là à l'extérieur du livre, parce qu'après ça, c'est quand même assez frappant la similitude dans le livre lui-même, d'accord? Mais qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Ça m'aide à suivre l'idée de l'auteur. Ça m'aide à comprendre où est-ce qu'il s'en va avec ça. Tout à l'heure, j'ai dit d'entrée de jeu que les livres prophétiques sont... Parfois, ça devient lourd parce que on assiste beaucoup à la colère de Dieu, aux reproches de Dieu, aux jugements annoncés, tout ça. Et si je fais juste lire la lettre, lire le livre prophétique et que j'ai aucune idée de la structure où on s'en va avec ça, bien, ça se peut que ce soit les paroles les plus dures qui me restent, d'accord? Puis là, le réflexe qu'on a, je pense, en tout cas pour ma part, si je ne cherche pas à lire intelligemment mon texte, le réflexe que j'ai naturellement, c'est après ça de dire, OK, je viens comme à m'immuniser contre toutes ces parties-là qui me choquent, puis là, je cherche une ou deux perles dans le livre qui me touchent un peu plus, où je vois le cœur de Dieu qui apparaît, d'accord? Maintenant, si je comprends bien la structure du livre, je vais pouvoir suivre l'idée de Dieu dans ce livre-là qui est inspiré par Dieu et recevoir plus entièrement son message. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ça fait du sens? Ou ça, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit? Ça va? Merci. Très bien. Alors, si on regarde une structure possible, je m'excuse. Si on regarde une structure possible, bien voici ce qui nous est proposé. Premièrement, une description de la scène de jugement. C'est-à-dire, c'est quoi la cause de litige? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène cette lettre-là? Quelle est l'offense qui a été faite? Il va y avoir une description de ce qui provoque ce bris-là dans l'alliance et du jugement qui va venir avec. Donc, une description de la scène qui amène ce jugement-là. Deuxièmement, un discours du juge. Dans le discours du juge, ce qu'on va avoir, c'est un avis à l'accusé. D'accord? Donc, l'accusé va être informé de ce qui lui est reproché. Et deuxièmement, si c'est vraiment une lettre comme ça qui est présentée, bien, le juge ou l'accusateur va démontrer que l'accusé n'a aucun moyen de nier les accusations. D'accord? Il trouvera pas, il va dire, regarde, tu pourras rien dire pour contredire ce que j'ai dit là, tu es vraiment en bris par rapport à l'alliance. Alors, affirmation que l'accusé ne dispose d'aucun argument en sa faveur. Déclaration de culpabilité. Alors, il y a les accusations. Déclaration qu'il est en faute. Et dernièrement, la sentence qui va venir avec. D'accord? Alors, ça serait une manière de lire le livre d'Amos. Je crois que ça tient la route et ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on lit dans le livre. Maintenant, on va regarder ensemble brièvement la structure du livre, puis on va regarder un petit peu les points similaires, d'accord? Bon, si assurez-vous d'avoir le livre d'Amos ouvert en même temps, là, pour suivre. Au début, on a une toute petite introduction, d'accord? L'auteur se présente, Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Et puis là, il s'annonce. Là, vous avez le juge qui vient et qui va décrire justement qu'est-ce qui l'offense, d'accord? Et c'est ça qu'on a comme description au départ. Alors, au verset 2, il dit « De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. » Et il annonce ça comme un jugement divin, d'accord? « Ainsi parle l'Éternel. » Et là, il va déclarer quels sont les péchés, d'accord? Donc, il décrit c'est quoi l'offense qui a été faite. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va s'en prendre au territoire environnant d'Israël. Il va s'en prendre aux deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, d'accord? Alors, Dieu a des reproches à faire aux nations païennes qui entourent Israël dans leur comportement. Et il a des reproches à faire aussi au royaume du nord et au royaume du sud, D'accord? Alors, jugement. L'approche du jugement sur les nations étrangères, sur Juda et sur Israël, qui est vraiment ces deux premiers chapitres-là. L'offense d'Israël et le jugement de Dieu. Alors, jugement sur Israël, qu'est-ce que Dieu prononce comme jugement? Jugement sur un peuple qui s'endurcit, qui refuse de se repentir. Lamentation sur Israël et appel à la repentance. La vision du jugement de Dieu. Et puis là, cette vision-là va être développée. Alors, quelle va être la sentence qui va venir? D'accord? Ici, les sauterelles, le feu, le niveau. Et puis, il y a un petit interlude. À la fin, on va arriver avec l'annonce d'une restauration. Puis honnêtement, là, si vous avez pris le temps de relire cette semaine à Amos, la restauration, elle apparaît comme un cheveu sur la soupe. Là, il n'y a pas de transition. On va le voir, là, mais vraiment, tu as le jugement. Puis tout de suite après, il annonce, pouf, un jour, je vais restaurer, d'accord? Mais il y a cette annonce-là. Et donc, ce dernier élément-là, l'annonce de restauration, c'est là que la structure du livre d'Amos se détacherait de tout ce que je viens de dire tout à l'heure sur une lettre de bris d'alliance, d'accord? Parce que c'est Dieu. Alors des fois, lorsqu'on se pose des questions sur l'inspiration des Écritures, puis comprendre comment Dieu a inspiré les auteurs, puis comment tout ça s'est placé dans le temps, parce que j'arrive devant un livre comme ça, puis je dis, « Ah, c'est drôle, cette structure-là, je la trouve dans des lettres païennes, par exemple, sur des poursuites de bris d'alliance, comme je vous disais. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vient de Dieu, puisqu'il est influencé par la culture lorsque le livre a été inspiré, tu sais? Mais en même temps, je lis le texte, puis je retrouve encore le Dieu de la Bible, d'accord? Et à la toute fin, avec cette promesse-là de restauration, je retrouve encore une fois le Dieu de la Bible qui est fidèle à son alliance, qui dit, lorsque vous serez infidèles, moi je demeure Dieu, par exemple. Donc, je demeure le Dieu gracieux, d'accord? Et ça nous aide un peu à comprendre comment Dieu a travaillé à inspirer les Écritures. Ça s'est fait dans un contexte, dans une époque. Parce qu'une des choses qui va vous frapper, plus vous allez étudier les Écritures, à un certain moment donné, vous allez saisir que chacun des livres, c'est important d'avoir une bonne idée à quelle époque il a été écrit, parce que la culture environnante a influencé l'auteur qui a écrit ce livre-là. Puis inévitablement, la question qui vient après, c'est « Oui, mais attends un peu, là. Si la culture environnante a tellement influencé l'auteur, je vais vous donner un exemple, d'accord? Je vous donne un exemple concret. Mon but, c'est pas de vous troubler, c'est de vous équiper pour être à l'aise avec les Écritures puis mieux les comprendre, d'accord? Par exemple, toute la pratique des baptêmes d'eau. Le baptême d'eau n'est pas particulièrement présent dans l'Ancien Testament. On va trouver le principe du lavement, mais pas le baptême d'eau. Quand Jean-Baptiste arrive avec le baptême, il n'arrive pas avec quelque chose qui est culturellement nouveau, d'accord? C'est quelque chose qui se faisait à ce moment-là. Puis Jean-Baptiste prend ça comme un signe de repentance. Et Jésus va le reprendre aussi. D'accord? Lorsqu'on ne sait pas ces choses-là, on lit tout ça, puis on dit, « Wow, Jean-Baptiste arrive avec ça, puis Jésus, puis là, c'est complètement nouveau. » Je vous donne un autre exemple. La structure du... lorsque Christ vient, il accomplit tout ce qui était lié au temple au niveau du sacrifice. D'accord? Il y a quelque chose de révolutionnaire qui se produit à cette époque-là, puisque avec la venue de Christ, sa mort, sa résurrection, le Saint-Esprit est donné. Les croyants reçoivent l'Esprit. Il n'y a pas lieu d'aller adorer constamment au temple. D'accord? Et donc, ce qu'on voit, c'est que il va y avoir des églises qui vont être implantées un peu partout. Et les gens peuvent adorer chez eux, puis se rassembler ensemble pour adorer un jour dans la semaine. Maintenant, quand on commence à étudier un peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là, tu dis, « Ouais, ça ressemble étrangement aux synagogues, cette affaire-là. » Et c'est vrai, d'accord? Tu regardes ce qui se passe dans la rencontre de l'Église, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans la synagogue. La synagogue, ce n'est pas une prescription biblique. Ça vient d'où, les synagogues? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Quand est-ce que les synagogues sont apparues, puis ça vient où, ça servait à quoi? Ça vient d'où, ça servait à quoi?
Pardon?
Pour remplacer le temple? Explique-moi ton idée. Peut-être que oui, là. Oui, le tabernacle, oui. Non. Steph, tu veux-tu nous éclairer? C'est ça. Alors, pendant la dispersion, d'accord, Les Juifs sont un peu partout, là. Ils sont plus juste en Israël, ils sont vraiment littéralement partout. Et ces gens-là ne veulent pas perdre leur foi. Les membres du clergé, les prêtres, tout ça, qui connaissaient les Écritures, sont eux autres aussi un peu partout. Fait que là, ils disent, on a nos gars qui peuvent nous instruire dans les Écritures. Qu'est-ce qu'on fait? Les synagogues viennent de là, oui. Non, OK. Oh oui, les déportations. Déportation, ce serait le meilleur terme. Alors, c'est ça. Alors, lorsqu'on parle des déportations, on parle des déportations dans l'Ancien Testament. La majorité des Juifs sont demeurés à l'extérieur jusqu'à ce jour, d'accord? La majorité des Juifs ne sont pas en Israël, sont à l'extérieur d'Israël encore aujourd'hui. Maintenant, alors, il y a des déportations multiples dans l'Ancien Testament. Les Juifs sont vraiment, il y en a qui se retrouvent extrêmement loin de chez eux. Ils ont quand même des gens qui peuvent les instruire dans les Écritures. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas des petits temples partout, parce que ça irait à l'encontre de l'Alliance qui dit, et c'est toute l'histoire de la division entre le Royaume du Nord et le Royaume du Sud, qui a voulu avoir son temple à lui pour pouvoir adorer. Non, ils vont pas commencer à faire des temples partout. Ce qu'ils font, c'est des maisons d'études bibliques. En gros, c'est ça. Qui deviennent des lieux de prière, mais ce ne sont pas des lieux sacrés en eux-mêmes. D'accord? Là, on est en train de faire un gros détour. Je vais essayer de revenir à mon propos, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Donc, dans l'histoire d'Israël, si je prends l'histoire biblique, ce qu'on voit dans les Écritures, le temple, c'est une prescription divine, d'accord? Dieu dit, c'est comme ça, vous allez adorer au temple, tout ça. Arrivent les déportations, tout ça, les Juifs s'adaptent à la réalité, sans que ce soit prescrit par Dieu, ils se prennent en main, puis ils disent, ben là, on va étudier la Torah, on va étudier la parole ensemble. Alors, ils conçoivent des écoles, on va appeler ça comme ça, des écoles rabbiniques, d'accord? Des écoles bibliques où ils vont étudier la loi puis prier ensemble. Ce sont les synagogues. Et effectivement, les Juifs commencent à revenir. Il y a plusieurs vagues de retour en Israël. C'est toujours une minorité qui revient en Israël. Mais ça se produit lorsque j'arrive au temps de Jésus. On arrive au temps de Jésus. Encore une fois, même à cette époque-là, la majorité des Juifs sont à l'extérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a la Septante à cette époque-là. D'accord? Alors, la Septante, c'est quoi? C'est la version grecque de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que la Septante a été rédigée? Pourquoi est-ce qu'on a pris l'Ancien Testament en hébreu puis on l'a traduit en grec? C'est parce qu'il y avait des Juifs qui étaient partout dans la diaspora juive qui ne connaissaient plus l'hébreu. Et ces gens-là voulaient étudier. D'accord? Ils voulaient continuer à étudier la loi. Alors, on l'a traduit en grec pour eux. On arrive au temps de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Bien, on arrive au temps de Jésus, puis là, on a des Juifs qui viennent. Et là, il y a les Juifs qui sont... C'est pour ça qu'on parlait des Hébreux puis des autres, d'accord? Alors, ceux qui parlaient l'hébreu, et puis ceux qui étaient vraiment instruits dans la loi, puis ceux qui étaient plus ignorants de ça. Lorsqu'on arrive à la Pentecôte, les gens qui sont là à la Pentecôte puis qui parlent d'autres langues, ce sont tous des Juifs qui sont là. D'accord? Ce sont des Juifs de la diaspora qui sont venus pour fêter à Jérusalem. Alors, la diaspora est très, très grande à ce moment-là. Donc là, tu dis, OK, on arrive dans le Nouveau Testament, puis là, dans le Nouveau Testament, les églises vont être implantées, puis ça va ressembler un peu à une structure d'une synagogue. C'est vrai. C'est encore vrai, d'accord? Je vous donne juste une autre piste de réflexion, d'accord? Toute la discussion sur le culte protestant puis le culte catholique, dans l'Église catholique, on a voulu comme recréer ce qui se passait dans le Temple. Alors que le culte dans l'Église catholique, tout est autour de l'Eucharistie. Tout se passe là, puis on fait un nouveau sacrifice de Christ à chaque fois qu'on fait l'Eucharistie. Dans l'Église protestante, on dit non, à partir du Nouveau Testament, tout est autour de la parole de Dieu. C'est la prédication qui est le centre de la célébration, d'accord? Parce que tout nous a été donné, tout a été accompli, on veut juste ressaisir Christ davantage encore, d'accord? Alors, dans un sens, l'Église protestante ressemble plus aux synagogues. Fait que là, tu te dis, l'Église arrive, elle copie ça sur les synagogues. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Parce que c'est pas prescrit comme ça, puis tu vois l'influence culturelle. Puis en même temps, on voit à quel point Dieu avait un timing incroyable. Parce qu'au moment où Jésus vient, il y a eu les déportations, il y a eu des synagogues, l'Ancien Testament a été traduit en grec, les païens ont commencé à s'intéresser à ce Dieu des Juifs, au Dieu monothéiste des Juifs, qui tranchait avec leurs multiples dieux à eux. Et lorsque Jésus vient, tout ça est tout là, tout est en place, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a son ministère, meurt, ressuscite, part, le Saint-Esprit est envoyé. Quand Paul s'en va avec les missionnaires, partent partout, là, ils ont un terrain incroyable pour répandre l'Évangile, d'accord? Fait que là tu sors des Écritures, puis là, tu dis juste historiquement, là, Dieu était vraiment sa coche. Il avait choisi son moment, il savait quand ça se passait pour que l'Évangile puisse se répandre à cette vitesse-là. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on voit lorsqu'on fait l'introduction du Nouveau Testament. Où je voulais en venir avec tout ça, c'est que tout le temps dans l'histoire des Écritures, on voit que la culture environnante, les croyants ne sont pas détachés de la culture environnante. D'accord? Ça va se manifester, par exemple, dans un livre comme ce livre-là d'Amos, où je vais voir une lettre qu'on pouvait trouver, on pouvait en trouver de multiples copies, des lettres de poursuite. Puis on dit, ah, c'est drôle, Amos, il a comme structuré son livre selon un modèle qui était là à l'époque. Et ce qui nous aide à voir que Dieu est toujours présent, c'est que malgré l'influence de la culture de l'époque, on retrouve toujours le Dieu de la Bible. D'accord? Alors, j'ai un livre prophétique qui est structuré selon une lettre populaire à l'époque, un modèle de lettre populaire à l'époque. Mais en même temps, je ne peux pas terminer ça juste comme une lettre de poursuite avec des menaces. C'est le Dieu de toute grâce qui a écrit cette lettre-là. Et donc, ça va se terminer avec la restauration. D'accord? Alors, plus vous allez étudier les Écritures, plus vous allez apprendre à voir ces éléments-là culturels qui sont là. Au début, ça peut vous faire poser des questions puis dire, ouais, mais ça vient-tu de Dieu ou ça vient de la culture de l'époque, en fin de compte? Mais Dieu est le Dieu qui intervient dans le temps. Il n'intervient pas à l'extérieur du temps. D'accord? On est appelés, nous autres, à vivre notre foi dans notre temps. Vous m'avez entendu dernièrement répéter ça. On doit aller rencontrer la culture, puis on est là pour amener l'Évangile à travers cette culture-là. On n'est pas appelé à, je vais le dire comme ça, là, sans vouloir être condescendant, on n'est pas appelé à des Amish. D'accord? C'est cute, c'est sympathique, ça fait peut-être des belles vacances aller visiter un village Amish, mais c'est pas l'appel qu'on a. D'accord? Notre appel est de vivre dans notre époque, et les livres ont été inspirés dans leur époque. Et donc, il y a des éléments culturels de l'époque qui influencent l'auteur qui est là. Et le Saint-Esprit, divinement, souverainement, inspire l'auteur à travers son temps, à travers sa personnalité, à travers sa culture, son époque. Est-ce que ça va? Je réalise que je suis un petit peu loin là, d'Amos, là. Je vous ai donné juste un principe général sur les Écritures. D'accord? On va aller à la prochaine page. Le contexte historique. Alors, Amos a prophétisé à la même période que le prophète Osée, soit avant la déportation du royaume du Nord en Assyrie. C'est un temps de prospérité, d'accord? C'est un temps de richesse et c'est un temps de grand péché pour le royaume du Nord. Alors, c'est une époque où le royaume du Nord est prospère. Ça va terminer avec des jugements sévères, mais le royaume du Nord va prendre cette prospérité-là pour aller vers d'autres dieux. Et là, je vais juste faire ressortir quelques éléments qui nous montrent qu'Amos comprenait bien son temps, comprenait bien les péchés des peuples environnants, et cela ressort dans ses prophéties. L'autre chose que je veux souligner avec ça, c'est de réaliser que lorsque Dieu annonce des jugements contre Israël, c'est toujours un ensemble. Le premier reproche que Dieu va faire à Israël, c'est « tu m'as quitté ». D'accord? Mais ça représente plein d'autres choses sur le plan éthique. « Tu m'as quitté », ça veut dire « tu es allé vers d'autres dieux ». Ça veut dire « tu as quitté le style de vie de celui qui marche avec Dieu ». Ça veut dire que les péchés des autres dieux sont entrés dans ta vie. Ça veut dire que tu ressembles de plus en plus à ces peuples-là qui commettent des abominations. D'accord? Et je trouve que ça nous permet de souligner ça, de voir un peu justement ces relations-là et le regard que Dieu dépose même sur les nations environnantes. Alors, premièrement, il était familier avec les atrocités commises au cours de la guerre syro-israélite entre la Syrie et Israël. Et voici ce qu'il dit dans Amos 1.13. « Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Damas, qui était la capitale de la Syrie. Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. » Et donc, ce qu'ils reprochent, c'est que non seulement il y a eu une guerre, mais dans leur guerre, ils ont été vraiment cruels. Deuxièmement, ils savaient pour la déportation des Israélites par les Philistins et leur vente comme esclaves et leur comportement et le comportement similaire des Phéniciens qui ne respectèrent pas les traités internationaux. Alors, il y avait des traités internationaux à l'époque qui disait « Lorsque tu fais la conquête d'un autre territoire, tu vas conquérir, mais tu vas traiter dignement le peuple que tu as conquis. » Parce que il faut se rappeler là que, et c'est comme ça que Dieu va utiliser le terme. Si on parle de généalogie, là, c'est tous des frères, tout ce monde-là. Oui, tu as les Juifs et tu as les autres, mais les Juifs, c'est les frères des autres, d'accord? Ils sont tous proches, toute la gang, là, sur le plan historique. Et donc, il y a des traités internationaux à l'époque qui disent, si tu fais la conquête d'un peuple, tu vas respecter quand même le peuple que tu as conquis. Et ce que Dieu reproche ici, c'est de les avoir, d'avoir commencé à faire de l'argent en vendant le peuple conquis comme esclave. Donc, on a deux versets. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Et donc, il parle ici de vente d'esclaves. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. L'alliance fraternelle fait référence à ces traités internationaux, d'accord? Qui disait, voici ce qu'on fait en cas de conquête, voici ce qu'on ne fait pas. D'accord? Il savait que les Ammonites avaient éventré les femmes enceintes à Gilead. Je m'excuse, c'est cruel, c'est affreux de dire ça, mais c'est la réalité. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. D'accord? Alors, littéralement, rentrer dans une ville et s'ils voyaient une femme enceinte, tuer la descendance pour affaiblir le peuple, éventrer les femmes enceintes. C'est des choses qui ne se faisaient pas en principe. D'accord? Et il connaissait aussi les guerres entre les nations environnantes, car il rapporte que Moab avait brûlé et calciné les ossements du roi d'Édom. Alors là, c'est intéressant, parce que Dieu va faire un reproche sur le traitement d'une nation païenne envers une nation païenne. C'est vraiment un des éléments super intéressants des livres prophétiques. C'est qu'il nous aide à voir que Dieu a son regard sur toute la terre. D'accord? C'est pas parce que Dieu a décidé de se révéler, de traiter alliance avec Israël et qu'Israël devient l'origine de toute la révélation vraiment spéciale de Dieu et la révélation écrite qui va au-delà de ce qu'on a comme dans la nature comme révélation. C'est pas parce que l'histoire se concentre là que le rapport de Dieu avec les hommes, avec la terre entière, se résume à ça. Dieu a ses regards sur toute la terre, d'accord? Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Alors simplement, si tu faisais la conquête d'un roi, tu ne méprisais pas, tu n'allais pas commettre un sacrilège contre le roi lui-même. Et c'est ça qu'il lui reproche ici. Il dit, OK, tu l'as conquis, tu devais le traiter avec respect quand même, d'accord? Et donc, comme je vous dis, on voit que Dieu a son regard sur les nations environnantes. Et donc, lorsque les hommes vont se présenter devant Dieu, qu'ils aient été exposés à la révélation, à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ou non, ils vont rendre compte pour leurs péchés. Et il n'y a personne qui va se présenter devant Dieu en disant, « Seigneur, je ne suis pas coupable parce que je n'ai pas entendu parler de Jésus. » Non, tu es coupable parce que, laisse-moi te dire tous tes péchés, je les ai tous pris en note, que tu as entendu parler de Jésus ou non, c'est pour ça que tu es coupable. D'accord? Tu vas rendre compte pour toi-même, pour tes actes. Et c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Le message d'Amos, jugement de Dieu, le jugement de Dieu est certain dans Amos 2, 6 à 16. Alors, ce jugement-là est arrêté, on peut tourner rapidement. Juste m'assurer que je vais avoir le temps de couvrir. Oui, c'est beau. On va commencer au verset 4, d'accord? Amos 2, 4. « Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Juda, même de 4. » Donc, il passe au crime du royaume du Sud, ici. Est-ce que vous me suivez lorsque je parle de royaume du Sud, royaume du Nord? Ça va? Israël est divisé en 2 royaumes. Ça s'est passé très rapidement après la mort de Salomon. Ça va? Royaume du Sud, Juda, Jérusalem. Royaume du Nord, Israël. Ça va? C'est comme ça qu'on les appelle généralement. Alors, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Là, j'ai pas pris le temps de lire tous les jugements sur les autres nations, mais Dieu emploie ici pour Juda exactement le même langage que pour les autres nations. D'accord? Et donc, Dieu en vient à dire, « Juda, tu vas être châtié de la même manière que les autres nations. » Pour moi, Tu n'as pas le droit à plus d'égards que les autres peuples. D'accord? Et s'il y a de quoi dans l'Ancien Testament, ce qu'on trouve en général, c'est plutôt l'inverse. Parce que tu as reçu la révélation, je m'attendais à plus de toi. D'accord? Donc, il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël, royaume du Nord, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, vers des prostituées, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent, encore une fois, avec des femmes. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Alors, les reproches sont multiples. Vous allez vers d'autres dieux, vous allez vers les prêtresses de ces dieux-là pour aller consommer le service d'une prostituée. Les pères initient leurs fils à ce crime-là. Et lorsque vous allez dans vos beuveries pour faire ça, vous vous étendez sur des manteaux que vous avez pris en gage de pauvres, qui ne pouvaient pas vous payer, puis vous êtes entré dans tout ce principe de gage-là, d'accord? Et donc, il y a énormément de reproches qui sont faits ici. 8b, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Parce que c'est eux qui ont fourni le vin, c'est eux qui sont dans cette fête-là. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Alors, ce qu'il dit, c'est « Regardez, je vous avais béni entre toutes les nations et vous êtes simplement retourné vers toute cette débauche-là, alors que je vous avais sorti de là. » Personnellement, là, dans ma méditation cette semaine dans le livre d'Amos, le verset qui m'a le plus parlé, c'est le verset 4. D'accord? Vraiment, je pense que le Saint-Esprit avait des choses à me dire, à parler à mon cœur, puis ça m'a fait du bien, ça me parlait vraiment de repentance encore une fois. Je vais juste descendre jusqu'au verset 16. Alors, verset 12, « Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Là, Dieu annonce son jugement. « Voici, je vous écraserai comme foule la terre, un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. » Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Je lisais ça, puis tu vois vraiment que Dieu est en train de dire, il n'y en a aucun d'entre vous, prenez les plus valeureux d'entre vous, vous allez fuir devant ma colère, c'est ça qui va se passer. Et donc Dieu est en train d'annoncer que son jugement est arrêté, qu'il est irrévocable, d'accord? En même temps, il y a un appel à la repentance. Alors, si on parle du message du livre d'Amos, il y a cette annonce de jugement-là et il y a un appel à la repentance. Il y a cette emphase où Dieu dit, j'aurais tellement voulu que vous veniez vers moi. J'aurais tellement voulu que vous vous tourniez vers moi. D'accord? Amos 5, verset 4 à 6, par exemple. Il y a plusieurs exemples. Tout à l'heure, je vais juste en citer d'autres. Là. Amos 5, verset 4 à 6. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. » Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. D'accord? Il parle des faux dieux en disant cela. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Parce qu'il n'y a aucun de vos dieux qui va pouvoir vous délivrer de ma main. Lorsque je vais décider d'intervenir. D'accord? Alors, encore une fois, pour bien comprendre ça, il faut toujours que je le place dans le contexte où si je ne le saisis pas bien, je vois juste un Dieu de colère ici qui est une espèce de chum jaloux qui est frustré que sa blonde l'a laissé pour aller avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et moi, je crois que lorsque des non-chrétiens lisent ces passages-là, c'est ça qu'ils voient. En gros. Il voit Dieu qui est comme le plus fort de la classe, tu sais. puis qui se dit, moi, écoute, c'est sûr, je suis le plus fort, je suis Dieu, je vous ai créé, tu sais. Fait que c'est comme le gros bouliste de la classe qui est le gros sportif, c'est le capitaine de l'équipe de football, puis il y a sa blonde, puis il y a deux, trois nerds, tu sais, qui ont approché sa blonde, puis finalement, il est tombé en amour avec un nerd, puis il est frustré, tu sais. Puis je crois que c'est ça que la majorité des gens qui vont lire ça, sans bien comprendre la révélation, sans bien comprendre l'amour de Dieu, sans bien comprendre premièrement qui est Dieu, je crois que c'est ça qu'ils voient. Et si j'ai raison, à leurs yeux, ce que ça fait, c'est que ça fait de Dieu un être immoral. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quand vous parlez avec des gens, vous avez parlé avec des gens de l'Ancien Testament? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils perçoivent le Dieu de l'Ancien Testament comme un être immoral? Ça marche-tu ce que je dis? Oui, non? Alors j'ai besoin de comprendre, oui, mais attends un peu, on est en train de parler de Dieu. On est en train de parler du Créateur, celui qui te donne ton oxygène. Premièrement. Alors, simplement parce que c'est Dieu, c'est lui le principe et la personne qui tient toutes choses ensemble, l'existence de toutes choses. Ne serait-ce que pour cela, il mérite effectivement qu'on lui soit entièrement dévoué et qu'on n'aille pas vers d'autres que lui. Ne serait-ce que pour cela. Mais s'ajoute à ça le fait que dès que tu t'éloignes de Dieu et que tu t'en vas vers, je vais le dire comme ça, je m'excuse, une autre blonde, ça va t'amener dans une vie qui va être une vie mal, parce que Dieu est celui qui est bien, d'accord? Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste. Et à partir du moment où tu décides de cesser d'aimer celui qui est le bien absolu, l'amour absolu, la sainteté absolue, c'est que tu décides un autre style de vie que celui-là. Et inévitablement, c'est le mal qui est attaché à ça. Je m'en vais vers tous les dieux que le diable a pu créer. Ou qu'un homme, un être humain rebelle, a pu créer à sa propre image, d'accord? Tant que je reste dans un culte à Dieu, je suis en train d'adorer celui qui nous a créés à son image. Mais dès que je me détache du culte de Dieu et que je m'en vais vers d'autres dieux, je m'en vais vers des dieux qui ont été créés à l'image du diable ou à l'image d'un cœur rebelle. Et donc là, il va y avoir plein d'implications avec ça, d'accord? Tout ce qui est décrit ici, il dit c'est ça. Va-t'en vers tes prostituées, vers ces femmes qui se prostituent pour le service à leur Dieu. Initie ton fils là-dedans, profiter du pauvre, abuser des faibles, tout ça. Vous comprenez, c'est tout ça qui vient avec, d'accord? Tu avais une question, Gérard?
Ben, c'était un commentaire.
Oui.
Oui. Alors, quand on lit dans l'Ancien Testament, on lit un Dieu vengeur, on lit un Dieu qui punit. Et quand il fait grâce au peuple, on ne semble pas le comprendre.
Et c'est mal comprendre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cours ici, c'est mal comprendre l'ensemble des Écritures, parce que le personnage le plus sévère dans toute la Bible, c'est Jésus. Celui qui parle le plus de la condamnation éternelle, c'est Jésus. Celui qui annonce les jugements les plus terribles pour l'âme humaine, c'est Jésus. C'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, en général, ce qu'il dit, c'est « je te détruis ». Dans le Nouveau Testament, il dit « non, non, je t'envoie en enfer, tu seras jamais détruit. Tu vas juste être là toujours, d'accord ?» Et donc, c'est vraiment mal comprendre tout ça. C'est ça, c'est que c'est plus facile d'annoncer un évangile, c'est plus facile de dire aux gens « Dieu veut te libérer de ton malheur ». C'est plus difficile de leur dire « Dieu veut te libérer de sa colère ». Mais ultimement, c'est ça, d'accord? Et lorsque j'annonce l'évangile, ce qui va faire la différence entre un évangile qui est dilué, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que j'annonce l'Évangile, je suis obligé de passer tous les points. C'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus n'aurait jamais passé le cours de EE. Vous comprenez, c'est pas compliqué. Là, ils auraient tous coulé les cours de EE. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis en train de dire qu'avec un cours comme Évangélisation explosive, j'arrive à comprendre de manière assez succincte l'ensemble du plan du salut, l'ensemble de la bonne nouvelle. C'est super important pour que je sache où je m'en vais lorsque je suis en train d'annoncer l'Évangile. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je dois toujours présenter l'Évangile au complet pour qu'il soit présenté. Mais c'est beaucoup plus facile d'approcher les gens, et c'est ça qu'on entend souvent malheureusement, d'approcher les gens en leur disant « Regarde tout le bien que Dieu veut te faire en te délivrant de ton malheur, de ce qui te fait du mal dans ce que tu ressens. » Ça fait partie du message biblique. Si j'enlève ça du message biblique, je n'ai pas compris que Dieu nous a créés pour être heureux. D'accord? Alors, Dieu me sauve de sa colère, puis il me sauve pour que je sois heureux. Les deux font partie du message. C'est fondamental. Vous me suivez quand je dis ça? Dieu nous a créés pour qu'on le glorifie, et il nous a créés pour qu'on le glorifie parce que notre bonheur se trouve à glorifier. Donc, Dieu nous a créés pour notre bonheur aussi. Fait que Dieu est là pour mon bonheur. Il est là pour sa gloire, puis mon bonheur se trouve dans sa gloire. Lorsque j'annonce l'Évangile, c'est beaucoup plus facile d'aller vers « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos » que de dire « Oui, mais attends un petit peu, ceux qui ne viennent pas à moi, par exemple, vont être condamnés pour l'éternité. » Lorsque j'annonce l'Évangile à une personne, et c'est pour ça qu'on dit souvent annoncer l'Évangile, c'est quelque chose qui se fait à travers une relation sur une période de temps. Si je croise quelqu'un dans le métro, j'ai l'opportunité de lui annoncer l'Évangile, je fais comme mon best shot d'un coup, c'est beau. C'est correct, je vais faire du mieux que je peux dans ces circonstances-là. Mais à mon voisin, à qui je vais annoncer l'Évangile pour les 10 prochaines années, à travers toutes sortes de conversations, bien, il y a des bribes qui vont saisir un peu partout. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans la prédication ici, le dimanche matin. Des fois, j'ai des gens, des frères et sœurs de l'Église ici, bien intentionnés, qui me disent, « Yannick, il me semble que ce matin, tu n'as pas présenté tout l'Évangile, tu sais, puis c'était comme, c'est un petit peu trop facile à faire. » La question que je leur pose, c'est est-ce que j'ai prêché l'Évangile à partir du texte qu'il y a là? Oui, c'est ça. Notre compréhension de ce qui est l'enseignement dans l'Église, c'est qu'on avance de manière par exposition. Si on va dans le texte, puis je prêche le texte, et la portion de l'Évangile que je vois apparaître là, je vais l'exposer. Alors, c'est probable que sur 52 prédications les dimanches matins ici, vous allez en trouver 40 où le message de l'Évangile est toujours incomplet. D'accord? C'était le cas avec Jésus. Chaque fois qu'il a abordé la question, c'était toujours incomplet. D'accord? Mais ce qu'on désire, c'est que les gens viennent se placer sous le ministère de la parole et tranquillement, le conseil de Dieu entre. Ils saisissent ces choses-là. Pourquoi est-ce que je disais tout cela? C'est parce que lorsque j'arrive dans les livres comme ça, ce que j'ai tendance à voir, c'est juste ce Dieu vengeur-là qui est présent. D'accord? Mais comme j'insiste dans le cours depuis plusieurs semaines, c'est important que vous puissiez vous réconcilier avec ces deux notions-là. Dieu nous a sauvés pour sa gloire et il nous a sauvés pour notre bonheur parce que notre bonheur se trouve dans sa gloire. Et l'Évangile annonce ces deux messages-là. Dieu est venu te sauver de sa colère et Dieu est venu te sauver de toi-même pour que tu le glorifies, que tu sois heureux. D'accord? Et donc, je dois me réconcilier avec ça à travers toutes les Écritures pour pouvoir être outillé à aider les gens parce qu'autrement, ils vont juste avoir l'impression qu'ils rencontrent un Dieu immoral. Ça va? Quelques éléments sur la théologie d'Amos en terminant. La théologie d'Amos nous présente un Dieu souverain, évidemment, si on l'a mentionné. Un Dieu souverain sur le monde visible, c'est lui qui a formé les montagnes, c'est lui qui tire l'eau des mers. Et donc, on a ces grandes descriptions-là de Dieu qu'on trouve un peu partout dans l'Ancien Testament. Le Dieu créateur, le Dieu qui règne sur les éléments. Mais aussi sur le monde invisible, parce qu'il s'est bâti un temple dans les cieux, donc un temple invisible aux hommes, parce qu'il a créé l'homme à son image pour adorer Dieu. Ça, c'est vraiment un argument plus indirect, si vous allez lire Amos 5, 26. Et donc, c'est le Dieu souverain. C'est le Dieu souverain sur les éléments visibles et sur le monde invisible, sur l'histoire des hommes aussi. C'est le Seigneur et juge des nations. Alors ça, c'est quelque chose qui sent beaucoup. Lorsque vous dites, bon ben, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans Amos? Mais tu apprends que c'est le Seigneur des nations. C'est lui le juge des nations. Les nations vivent et Dieu les regarde et Dieu les juge. C'est lui qui est souverain sur les nations. Il soulève une nation pour qu'elle soit un jugement sur une autre nation. Cette nation-là s'enorgueillit de sa puissance et Dieu lui dit, c'est à ton tour maintenant d'être jugé. D'accord? Et donc, Dieu affirme qu'il est souverain sur cette histoire-là de l'humanité. Il est le juge d'Israël, évidemment, qui est son peuple. Et donc, il va soulever des nations pour juger son propre peuple, Israël. D'accord? Et donc, ça nous ramène à ce qui peut subvenir dans nos vies à nous. Lorsque des non-chrétiens nous font du mal, est-ce que Dieu n'est pas souverain? Il est encore souverain, il est encore derrière ça. C'est encore le Seigneur des nations, c'est le Seigneur des chrétiens et des païens. D'accord? Même si plein d'hommes ne se sont pas agenouillés devant lui, il demeure le Seigneur de la terre qui va juger toute la terre et qui est souverain dans tout ce qu'il est en train d'accomplir dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi le Dieu qui aime et qui désire une relation intime avec ses enfants. On le voit de deux manières dans le livre d'Amos. On le voit de manière spéciale dans la relation entre Dieu et son prophète. D'accord? Si vous allez dans Amos 9, un beau verset, là. C'est-tu Amos 9? C'est pas Amos 9 que je cherche. Attendez un peu. 3. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Moi, ça me fait penser à la relation entre Jésus et son Père. D'accord? Et donc, on voit, je vous dirais dans le livre d'Amos, la relation intime qu'un homme peut avoir avec Dieu ou que le peuple de Dieu peut avoir avec Dieu est illustrée de manière absolue ou parfaite dans la relation entre le prophète et Dieu. Amos était un homme qui a été choisi par Dieu. Ce n'était pas un homme qui faisait partie de l'élite religieuse. Dieu est allé le chercher dans l'arrière-pays. Et puis, il lui révèle tout ce qu'il va faire. D'accord? Et donc, il y a cette relation intime. Mais Dieu désire une relation avec l'ensemble de son peuple. Et donc, il y a cet appel à une communion avec Dieu dans Amos 4:10, par exemple. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait montez à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Et donc, Dieu est en train de dire, moi-même, ça m'écœure, tous les jugements qui sont tombés sur vous. Mais malgré ça, jamais vous êtes revenu à moi. Puis il va répéter cette litanie-là, d'accord, pendant plusieurs versets. Dieu désire cela. Et à la toute fin du livre d'Amos, qui est le Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans le livre d'Amos? On apprend qu'au-delà de toute la culpabilité d'Israël, Dieu est bon. On termine le livre d'Amos avec les trois derniers versets. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Je m'excuse, je vais y aller avec le verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. » Tellement la production va être grande, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits, je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » On n'a pas d'informations sur quand ça se passe. J'ai tendance à l'associer avec les prophéties les plus éloignées, celles qui sont liées à la venue de Christ et les bénédictions qui viennent après. Mais on n'a pas d'informations sur ça. Alors voici ça, c'est le livre d'Amos. La semaine prochaine, on va regarder ensemble le livre d'Abdias. C'est un petit livre. J'aimerais ça vous demander de faire l'effort quand vous venez au cours de lire le livre avant. D'accord? Moi, je vous encourage à faire deux choses. Surtout, on est dans des petits livres, là. Moi, je vous encourage à le lire rapidement au début de la semaine pour que ce soit un objet de méditation pour vous et de le relire autant que possible le dimanche matin, juste pour que vous puissiez tirer des informations de ça, parce que tout probablement, vous ne relirez pas ce livre-là avant un an et demi, deux ans. D'accord? Si vous êtes dans une lecture de l'ensemble des Écritures, là, les probabilités que vous reveniez à Abdias dans les deux ou trois prochaines semaines sont assez faibles. D'accord? Alors, si vous pouvez le lire pendant la semaine, vous préparez pour voir ces choses-là apparaître dans le texte puis que l'information entre davantage, ça va être plus bénéfique. On va terminer avec un mot de prière. Eh bien, Éternel, je veux, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu es digne que mon cœur te soit entièrement consacré, Seigneur. Tu es digne de cela parce que tu es le Créateur souverain. C'est toi qui crée les cieux et la terre. C'est toi qui me permet à l'instant même de vivre, Seigneur. Pourquoi est-ce que je vivrais pour quelqu'un d'autre que celui qui est ma vie, qui me donne le souffle? Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu t'es révélé à moi, à nous, comme tu l'as fait pour Israël, Seigneur. Je te prie de disposer nos cœurs afin que nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël, à qui Dieu dit « Je t'ai châtié, mais tu n'es pas revenu à moi. Je t'ai frappé, mais tu n'es pas revenu à moi. » Seigneur, donne-nous un cœur pour sentir ces choses, des oreilles pour entendre, Seigneur, ces paroles, recevoir cette exhortation et qu'elle soit pour nous, Seigneur, une parole de vie, une parole de paix, une parole de réconciliation avec notre Dieu si nous nous sommes éloignés de toi. Accorde-nous, Seigneur, la force d'être à notre tour, ces Amos qui sont essentiels, Seigneur. Parce que nous l'avons vu dans Amos, tes yeux sont sur toutes les nations de la terre, tes yeux sont sur nos familles, nos voisins, la ville de Longueuil, Seigneur. Et tu considères la vie de tout homme, et ces hommes destinent, préparent leur éternité, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être des Amos qui, humblement, sans vouloir trop parler de nous-mêmes, allons aller vers eux pour leur parler de toi, Seigneur, de ton amour, de ta grâce et de ta sainteté, et de ce qui les attend s'ils ne se tournent pas vers toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.